Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Pour mourir libre, il faut vivre libre. Tel est le credo de ce nouveau roman intitulé Manifesto de Léonore de Recondo, notre invitée aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Après plusieurs romans remarquables et remarqués, dont Amour et Point Cardinal, pour citer les plus récents, qui ont été primés à plusieurs reprises, vous revenez cette fois à la veine autobiographique de votre premier texte, en publiant aux éditions Sabine Vespieser un récit intime et néanmoins très littéraire, dont le fil conducteur est une longue nuit en mars 2015, où votre mère Cécile et vous avez accompagné jusqu'à son dernier souffle votre père Félix de Recondo. Un texte traversé par le chagrin, mais aussi par la lumière et l'amour que vous lui portez, l'amour d'une fille, mais aussi l'amour d'une artiste que vous êtes, violoniste et écrivaine, pour un autre artiste, il était dessinateur et sculpteur, et enfin l'admiration pour une vie, la sienne, qui a été riche de bonheur et marquée par le malheur, la guerre, l'exil, le deuil. Quand vous a-t-il paru comme une évidence, Léonore de Recondo, que vous souhaitiez lui écrire ce tombeau ?
Assez vite, je pense que je savais que c'était une grande étape de ma vie. La mort de mon père, l'accompagnement que j'en avais fait cette nuit-là, j'ai su assez vite que je voulais raconter cette nuit, parce que cette nuit là, c'est le grand mystère, c'est la traversée de ce passage de la vie à la mort, et de pouvoir être là avec lui et ma mère, c'était aussi un cadeau d'aller jusqu'au bout avec lui. C'est poser la question après de comment le faire. Je crois que ça, c'était la grande difficulté pour moi. J'ai commencé plusieurs fois le roman, je dois dire, en racontant cette nuit, et j'ai abandonné à chaque fois parce que c'était trop difficile. C'était une sorte de récit, et je me cognais contre les murs de cette chambre, et il fallait que j'arrive à y insuffler autre chose, du romanesque, de la littérature aussi, parce que quand même mon défi, c'était ça, c'était d'en faire une œuvre littéraire et de pas avoir juste à déverser ce récit pour que je me sente mieux. Ça j'aurais pu le faire dans un journal intime, disons. À partir du moment où je voulais en faire une œuvre littéraire, il fallait que je réussisse à en faire autre chose que ce récit-là.
Est-ce que l'écriture ravive la douleur ou la transforme ?
C'est compliqué, je pense que c'est les deux. On traverse à nouveau ça, mais parce qu'on le traverse d'une manière désirée, on devient maître de cette situation, et donc on le revit autrement, on le revit avec une distance. Et maintenant, Félix est toujours mon père, mais il est aussi un personnage de roman. Et ça, je m'en rends compte aussi en parlant avec vous maintenant. Je parle de lui aussi comme le personnage de ce roman.
Lui rendre hommage, le rendre immortel, mais aussi peut-être aller sur les traces de son passé que vous n'avez pas connu, Léonore de Recondo, puisqu'il est né en Espagne et qu'il est nourri d'une culture basque qui n'est pas la vôtre, puisqu'il est parti ensuite, il a connu l'exil.
Oui, oui, oui. En effet, il est né en 1932 au Pays Basque. Ma famille était basque, côté espagnol. Et donc, il part en 1936 avec sa famille parce que le Pays Basque tombe dans les mains de Franco. Donc, étant anti-franquiste, ils partent en exil en face, au Pays Basque d'abord français, puis dans les Landes. Donc évidemment, cet exil forcé, la perte de tout, parce que c'est non seulement de l'argent, mais c'est aussi d'un statut social, de la perte. Toute la famille s'en va. Donc ça l'a extrêmement marqué. Franco reste au pouvoir jusqu'en 75, donc il fait toute sa vie en France. Et il y a une sorte de grands fantasmes, de grands rêves de ce pays laissé, de ce que lui en ont raconté ses parents et de ce qu'il m'en a raconté. Donc moi, je deviens aussi, je reçois ce rêve, je reçois ce pays. Et donc ça, c'était quelque chose d'important que je voulais évidemment mettre dans ce texte, puisque c'est une part de lui très 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 importante.
Alors ça, c'est aussi un thème que vous aviez évoqué, donc dans le premier roman, Rêves oubliés, n'est-ce pas, toute cette partie familiale. Et en même temps, ici, vous ajoutez que enfin, vous lui faites dire à Félix, parce qu'on va arriver à ce moment de la narration très particulière, vous lui faites dire que il était partagé entre ces deux pays qui ne se sentaient pas espagnols et qui ne se sentaient pas français et qu'il était un peu au-delà des frontières. Et d'ailleurs, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles l'art, justement, a rempli sa vie.
Oui, je pense qu'il y a une sorte de langage universel, de sentiment d'être au-delà des frontières quand on est artiste dans cette quête. Et lui, en étant dessinateur, peintre, il n'y a pas de mots. Donc, de toute manière, il est dans un geste au-delà de la langue, qui est bien sûr tout à fait imprégné de la culture dans laquelle il est né, de la culture dans laquelle il a vécu. Ce qui est assez particulier dans son identité à lui, c'est que ils sont restés apatrides, ils ont été déchus de leur nationalité en partant d'Espagne, donc des 36, et il est resté apatride jusqu'à la mort de Franco, donc plus de 40 ans. Après, il a décidé de devenir français. Et être apatride, je crois que c'est le pire dans une vie, parce que tout est très 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 compliqué quand on doit faire ses papiers, enfin quand on vit dans un pays. Mais il a fait ce choix-là que je trouvais très très fort. Et donc, je l'ai vu. Hein, il parlait évidemment parfaitement l'espagnol, le basque, le français uniquement avec moi, comme beaucoup d'immigrés qui ont envie de s'intégrer et de ne pas faire porter. Il n'avait pas envie de me faire porter cette confusion des langues qu'il avait eue enfant. Et à travers son art, pour moi, c'était évident qu'il y avait quelque chose qui le portait au-delà, qui le transportait au-delà des frontières. Et de toute manière, les frontières sont faites aussi pour être passées. Je pense que ça, c'est quelque chose de fort dans l'exil et dans les frontières. Les frontières sont là. Ça n'est pas seulement un blocage, ça n'est pas seulement une fermeture, mais c'est aussi quelque chose qui peut s'ouvrir. Et dans l'art, c'est quelque chose qui s'ouvre à chaque instant. La frontière de soi-même, la frontière des autres, la frontière du possible dans la pensée et dans le spirituel aussi. C'est une sorte de dépassement de soi.
Alors, je reviens un instant sur ce que vous venez de dire, Léonore de Recondo, c'est que vous parliez ensemble en français.
Oui.
Donc ça veut dire que vous n'avez pas appris le basque ni l'espagnol ?
Alors je l'ai appris après, parce qu'évidemment j'étais d'une curiosité. Et comment dire, moi je suis née, il me racontait. En plus c'était un homme qui n'avait pas de rancœur particulière vis-à-vis de l'espagnol. Il n'a pas été élevé dans la haine. Donc évidemment il détestait Franco, ça c'est sûr. Mais il avait un rapport assez apaisé à l'Espagne. Et assez apaisé au Pays Basque. C'est juste qu'il a fait sa vie en France et qu'il a rencontré ma mère, je suis née, et ils m'ont parlé en français. Ma mère aurait aimé qu'il me parle en espagnol, mais il a fait le choix de me parler en français en m'expliquant à chaque fois ça, en me disant, voilà, moi je suis arrivée en France, j'avais 4 ans, je parlais basque avec mes parents, je parlais espagnol avec mes oncles, et je parlais français avec mes frères. Et ces 3 langues, tout le temps, il était épuisé par ces langues. Il était très, c'était un cancre à l'école, il avait un rapport à la langue et à l'écriture extrêmement complexe, il se sentait, je pense, tout à fait complexé aussi par rapport à ça. Et très vite, il a trouvé le chemin du dessin. Mais moi, il m'a dit non, toi, je te parle en français. Alors après, j'ai fait des rencontres, j'ai appris l'espagnol. Ce qui était drôle, c'est qu'il était très très fier que je parle l'espagnol. Et finalement, il y a des moments où on parlait espagnol. Après, à la fin de mon adolescence, quand j'ai appris cette langue, il était très fier, mais ça venait pas de lui. C'était autre chose. C'était moi qui venais retrouver et me rattacher cette culture que je ne connaissais pas. C'est aussi ce que je fais dans ce texte. De toute manière, c'est revenir, c'est comprendre. Parce que maintenant qu'il est mort, qu'est-ce que je fais ? Je ne peux plus en parler avec lui. Donc, ce qu'il me reste, c'est d'aller chercher, c'est de puiser dans mon intuition, de puiser dans mon imaginaire, dans ce que j'ai ressenti pour m'approprier cette terre qui est aussi la mienne.
Et donc, de continuer le dialogue avec lui, de remettre des mots sur une relation. Et parallèlement à cette description presque clinique des derniers instants de votre père que vous racontez à l'hôpital lors de cette dernière nuit en compagnie de votre maman. Donc vous lui donnez la parole et mieux même, vous le faites dialoguer avec l'écrivain américain Ernest Hemingway, qui en effet s'est battu en Espagne, où est né Félix, mais à une époque où ce dernier était encore enfant. Alors, d'où vient ce choix, Léonore de Recondo, de cet échange entre deux hommes ? Se sont-ils connus, croisés à un moment de leur vie ?
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, après mes multiples tentatives de commencer ce roman et mes échecs consécutifs, j'ai pu l'écrire à partir du moment où j'ai imaginé cette conversation. C'est-à-dire, j'ai pu imaginer un texte en alternance avec la description de cette nuit qui avance, dont on sait évidemment la fin, et y insérer une dernière conversation qu'aurait Félix et Ernest Hemingway, qui s'appelle Ernesto dans le texte. Alors j'ai pensé à Hemingway d'abord parce que il était, comme vous venez de le dire, très impliqué dans la guerre d'Espagne. C'est un grand créateur. Il adorait la corrida. Et il y avait aussi un rapport, enfin quelque chose dans sa vie, la présence de la mort, la présence du deuil, la présence du suicide, qui était extrêmement forte. Et donc beaucoup de résonance dans la personnalité et dans l'échange que pourraient avoir ces deux créateurs par rapport à leur appréhension de la vie. Donc, à partir du moment où j'ai décidé ça, où j'ai dit, mais oui, pourquoi pas Hemingway? Pourquoi pas ces deux vieux messieurs, même si une génération les sépare, ne pourraient pas se retrouver sur un banc, alors que Cécile et moi sommes coincés dans cette chambre, Félix pourrait être ailleurs, dans un paysage totalement ouvert, assis sur ce banc, avec Hemingway. Et je commence l'écriture de ce texte et je recherche, et tout d'un coup, je m'aperçois que Hemingway est en fait un ami de la famille. Chose que mon père m'avait peut-être dite, mais que j'avais complètement oubliée, qui devait rester coincée quelque part dans mon inconscient et qui est venue ressurgir. Parce que Hemingway, donc dans les années 20, était à Paris, mais allait à Pamplune aux fêtes de la Sainte-Felmine pendant plusieurs années de suite. Et il allait tous les dimanches déjeuner chez la sœur de ma grand-mère, après les toros. Donc, quand j'ai retrouvé des photos... Quand j'ai réalisé ça, c'était un moment extrêmement fort, comme vous pouvez l'imaginer.
Des photos où donc on voit Ernest Hemingway.
Oui, on voit Hemingway avec un oncle de mon père, qui est dans le texte, qui est l'oncle curé, à Dax. Et donc, je ne peux pas vous expliquer comme les bras m'en sont tombés, de me dire qu'il y avait quelque chose de miraculeux, je peux pas dire autrement. Il y avait quelque chose d'une intuition. Et il y a quelque chose aussi de l'état dans lequel j'étais pour écrire ce texte. C'était évidemment un état, je pense, d'une sorte de grande, à la fois de lucidité et à la fois de sensibilité à ce qui me traversait, ce qui nous traversait, mais ce qui nous traversait au sens plus large, c'est-à-dire au sens familial, au sens d'une histoire qui venait s'inscrire. Et de cette intuition, il y a eu cette sorte de lumière et d'Hemingway qui, en effet, venait résonner dans cette histoire le plus... Non seulement il était un interlocuteur juste d'un point de vue artistique, d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue familial.
Et donc, il y a une circulation du texte, des arts, parce que Ernesto raconte comment sa mère le forçait à jouer du violoncelle, par exemple, avec une grande fermeté. Il se trouve que l'art vous réunit évidemment aussi avec votre père, Félix, puisqu'il dessinait, il sculptait. Vous, je le rappelle, vous jouez du violon, vous écrivez. Et d'ailleurs, je me demandais le choix du violon que vous n'expliquez pas et qui ne s'explique pas sans doute. Mais est-ce que néanmoins vos pratiques artistiques à l'un ou l'autre créent aussi un nouveau lien entre vous?
Ah oui, bien sûr. Un lien fondamental même, je pense. Et mes parents étaient deux créateurs. Donc je les ai toujours vus dans cette vie-là, dans une vie à la fois extrêmement belle et parfois extrêmement précaire, une vie difficile, des choix vraiment de vie, de liberté que j'admirais. Je n'ai jamais pu penser être autre chose qu'une artiste parce que je les voyais à l'œuvre et que cette discipline et cette rigueur aussi et la manière dont ils le vivaient entièrement, je voulais faire pareil. La seule chose, c'est qu'il fallait que je trouve mon domaine, qu'il fallait que je trouve mon territoire parce que il me semblait très compliqué d'entrer dans le territoire du dessin vu la puissance qui jaillissait du travail de mon père et de ma mère. Et donc, je peux pas vous dire comment, mais mes parents étaient mélomanes, mais pas du tout musiciens. À 4 ans, j'ai commencé de leur demander de jouer du violon. Donc, ils ont attendu un petit peu en se disant, bon, c'est peut-être une petite lubie d'enfant. Et puis, j'ai insisté lourdement jusqu'à ce que, vers 5 ans, un petit étui de violon apparaisse. Et j'ai su très vite que ça allait être mon domaine. Et évidemment, ils m'ont soutenu avec beaucoup de cœur. Et c'est la même chose, en fait. Je peux pas dire que je me considère comme écrivain ou comme musicienne. Les artistes, on est dans une sorte de quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus entier. Pourquoi on crée? C'est pour avoir une autre approche de la vie. C'est pour dépasser quelque chose. C'est aussi pour une compréhension plus profonde du monde et de qui l'on est et de de ce qu'on a envie de montrer et peut-être de, évidemment, l'idée du dépassement de soi qui dans l'apprentissage de la musique et évidemment d'une discipline et d'une rigueur, surtout le violon, c'est pourquoi choisir le plus facile. Ces notions-là de rigueur et de discipline, je les ai dans ma vie, dans mon art.
En tout cas, non seulement vos parents vous ont accompagné dans cette passion, mais votre père a fait encore mieux. Sublime cadeau, il vous a sculpté un violon.
Oui.
Sur lequel vous jouiez à l'époque ?
J'ai joué un peu sur ce violon, ça n'est pas le violon que j'utilise aujourd'hui. Mais en effet, il s'est passionné pour la lutherie. Alors les violons sont des instruments, des objets merveilleux, très très difficiles à faire. Et donc il s'est tellement passionné pour la lutherie, pour la beauté de l'objet, qu'il a décidé en effet de me faire un violon. En fait, il m'a même fait deux violons. Et je les ai joués, ils sont tout à fait là.
La musique donc en écho entre vous et que nous entendons aussi ici dans ce roman Manifesto, avec cette scène en particulier où vous lui faites écouter une sonate à l'hôpital. Si vous voulez bien, Léonore de Recondo, nous lire cet extrait qui est page 113.
Avec plaisir. Le jour va bientôt se lever, la lumière change dans la chambre. Ta respiration s'est apaisée. Je demande à Cécile si elle a envie de passer un moment seule avec toi. Elle me dit non, reste. Alors je reste. Je regrette de ne pas avoir pris mon violon. J'aurais aimé jouer une dernière fois pour toi. Mais je réalise qu'ici c'est impossible. J'aurais dérangé le sommeil des autres patients, les infirmières aussi. Et puis je n'ai pas pensé un seul instant à prendre mon violon. Évidemment que non. Mais j'ai de la musique dans mon téléphone. Je propose à Cécile du Corelli. Elle me dit oui. Je pose l'appareil sur la table, le volume au maximum. Nous écoutons tous les trois les sonates da Chiesa. Le son n'est pas bon, mais tu as tellement écouté cette musique qu'elle résonnera de toutes les fois passées. Je regarde si ton visage change quand la musique commence. Non, tu respires faiblement, c'est tout. Je retourne à la fenêtre, je vois du rose qui pointe au loin. L'hôpital est encore calme, pour combien de temps ? J'ai peur de l'agitation du jour, j'ai peur. Nous sommes bien là, tous les trois. J'aimerais que cet instant s'étire. Nous pourrions dormir un peu près de toi et reprendre notre souffle avant que tu ne retournes à mourir et nous à vivre. Thank you.
êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières avec cette sonate de Corelli sur RFI. Une musique évoquée donc par notre invité aujourd'hui, Léonore de Recondo, qui publie Manifesto aux éditions Sabine Weiss-Bieser, un texte autobiographique, on l'a dit, consacré à votre père Félix de Recondo, mais aussi à votre mère Cécile, puisqu'ensemble vous avez partagé les derniers instants de celui qui vous a donné la vie. Pourquoi ce titre Manifesto ?
Excellente question. Alors, je n'avais pas du tout de titre en tête. Et puis, comme l'écriture de ce texte était dans, comme je vous disais, d'une sorte de connexion absolue avec mon inconscient et le passé, le mien et des autres, j'ai fait beaucoup de rêves. Et j'ai fait un rêve. Je devais être au tiers du texte. J'ai rêvé que j'étais avec ma mère dans une pièce. Elle est assise sur un canapé. Je suis assise par terre entourée de plein de petits bouts de papier. Et pour écrire ce texte, je cherche dans ces petits bouts de papier ce qui s'est passé dans les années 80-90. Je suis très agitée, moi. Alors que ma mère est très calme, Cécile. Et puis, elle me dit, mais c'est simple. Il faut juste que tu trouves la phrase qui viendrait tout englober, qui viendrait expliquer ton manifeste, ce manifesto. Et c'est là que je lui réponds, et eh oui, je crois que la phrase qui viendrait tout englober, c'est « pour mourir libre, il faut vivre libre ». Et je me réveille. Je me réveille, émue évidemment, et je me dis « Cécile m'a donné le titre de ce texte ». Et à partir de là, j'ai décidé qu'il s'appellerait Manifesto, ce qui me semble finalement très juste, parce que c'est un manifeste sur la liberté, c'est un manifeste d'amour aussi, et c'était ça. Voilà.
Tout au long du récit, j'ai été frappée par la récurrence du trio. D'abord, évidemment, celui que vous composez avec vos parents, ensuite celui de la narration, où trois voix s'entremêlent, la vôtre, celle de votre père et celle d'Hemingway, on l'a dit au début, mais aussi trois arts, sculpture, écriture, musique, et puis, de manière beaucoup plus funeste, les trois premiers enfants de votre père, vos demi-frères et sœurs, Dominique, Raphaël et Frédéric, mort à 3 ans d'écart, d'accidents, de maladies et de suicides. Comment survivre à autant de chagrin et de deuil ?
Je ne sais pas. C'est un grand mystère. Ils sont morts dans les années 90. Moi, j'étais adolescente, entre mes 13 et mes 16 ans. Et oui, Félix, mon père, enfin, c'était une sorte d'ahurissement, c'est-à-dire Dominique est morte d'une overdose, donc ça a été la première mort qui nous a anéanti. J'ai vu mon père dans un état de tristesse absolue, mais, et non seulement de tristesse, mais aussi de lucidité absolue sur ce qu'était la vie, et un chagrin très très profond. Et puis Raphaël, 6 mois après, est mort du sida. Et Frédéric n'a pas survécu. Frédéric, le dernier, s'est suicidé. Donc là, on était dans une sidération. Et puis moi, je me demandais comment il allait faire, Félix. Comment mon père... Enfin, j'ai passé des mois à penser qu'il allait se suicider. C'était juste impossible de survivre à ça. Et il a survécu. Je pense que il a tenu grâce à Cécile et moi, grâce à son art. Il a été dans une création, dans quelque chose qui s'exprimait là, de surpuissant, un désir de vie, de survie. Un désir d'être là, malgré tout, d'être là pour nous. Je pense que on s'est tenus, on s'est soutenus, tous les trois, d'une manière très forte. Et moi, je me suis sentie aussi responsable. J'ai porté ces morts-là aussi, en me disant que d'abord, que j'étais la dernière. Je me suis demandé aussi si j'avais une sorte de malédiction ou si j'allais pouvoir m'en sortir.
Mais j'allais vous poser la question parce que c'est vrai que ce thème du suicide nous ramène évidemment à Hemingway, oui. Puisqu'il s'est tué avec son propre fusil, mais il appartenait également à une famille où avant lui et après lui, oui. De très nombreux membres se sont suicidés. Et je me demandais, est-ce que ce soit de son côté ou du vôtre, à un moment... Oui, vous a traversé l'idée d'une malédiction.
Bien sûr. Oui, bien sûr. Je me pose encore la question. Je me la poserai toujours. Ils sont tous morts avant 30 ans, maintenant j'en ai 42.
Donc vous êtes sauvés.
Peut-être. Est-on jamais sauvés? Bon, on va bien mourir un jour. Hein. Mais tant que je ne suis pas morte, je suis vivante. Et tant que je serai vivante, je vivrai très intensément. L'écriture me permet d'exprimer des choses autrement. La musique aussi, c'est une sorte de territoire dans lequel je suis chez moi, je suis protégée, je suis moi-même, je suis en contact profond avec ce qui se passe autour de moi, tout en étant très seule. Et c'est exactement pareil pour l'écriture. C'est un geste vers les autres, c'est un geste extrêmement vivant. Le don que l'on fait en écrivant. Mais c'est un geste qui est à la fois aussi très seul. Et ça me permet, mais ça m'a donné une force aussi. Parce que ça n'est pas que négatif, hein. Ça m'a donné, enfin, une connaissance très tôt de la vie, de ce que pouvait être une vie, des choix qu'on en faisait. Et moi, j'ai choisi de cheminer vers la lumière autant que je pouvais, dans l'amour, dans les autres, dans ce que l'on donne de soi avec le plus de joie aussi.
Alors j'aimerais évoquer aussi avec vous, Léonore de Recondo, quelque chose qui m'a semblé récurrent dans vos livres, à savoir le thème du passage. Parce qu'effectivement ici, c'est le passage de la vie à la mort, mais dans votre précédent livre, Point cardinal, il s'agissait de la métamorphose d'un homme qui choisissait de devenir une femme. De même que dans Amour, on avait aussi ce passage entre la révélation d'une épouse pour une autre femme, alors que jusqu'ici, elle ne pensait pas avoir ces amours-là. C'est donc un sujet qui vous traverse, la mutation, le mystère.
Oui, mais on vient de parler de suicide, donc on peut aussi parler du passage à l'acte, hein, qui est quand même un passage. Tous les actes sont des passages. Le passage qui est aussi cheminer vers une découverte, cheminer vers une autre connaissance de soi, des autres, d'un sujet, d'un thème, d'un territoire, de ce que l'on veut. Ça m'intéresse. Comment mes personnages y vont, comment mes personnages le traversent et comment, à travers eux, je le traverse.
Et est-ce que Cécile a lu Manifesto?
Évidemment. Cécile a été l'une des premières à lire Manifesto. Manifesto n'aurait jamais été publié sans sa lecture. Sans son regard, j'ai pris le parti de laisser les prénoms aussi. M'a traversé l'idée de ne pas le faire à un certain moment en disant bon, et puis finalement, soyons honnêtes, c'est cette histoire-là, donc je vais pas m'en cacher. Elle était d'accord aussi. Je crois qu'elle a lu l'amour qu'il y avait dans ce texte. Le personnage qu'elle est, parce qu'elle est aussi un personnage, elle est ma mère, mais elle est aussi un personnage de roman. Ce personnage de roman, je l'ai écrit avec beaucoup d'amour et beaucoup de, j'espère, de délicatesse pour elle.
Mais ce livre vous a rapproché, évidemment.
Oh, on est très proches. J'adore ma mère. On s'adore. Donc, je pense que de toute manière, si je m'étais pas sentie dans une confiance totale ou dans un lien très fort avec elle, je ne me serais pas autorisée à écrire ce livre. J'ai pu le faire parce qu'elle était là et parce que je savais que son regard était bienveillant.
Est-ce que Manifesto pourrait devenir une pièce musicale?
Oui, volontiers.
Que vous pourriez composer?
Je ne sais pas composer, figurez-vous. Je sais interpréter de la musique qu'on me donne, mais je ne sais composer qu'avec des mots. Mais pourquoi pas? Qui sait? Pour l'instant, rien ne m'est venu, mais il y aura peut-être un jour une lecture musicale de ce texte. Ce serait bien.
Alors restons sur cet espoir et sur votre rire surtout, pour rappeler que Manifesto, encore une fois, c'est un grand livre d'amour aussi et de lumière. Merci beaucoup, Léonore de Recondo. Je rappelle donc que Manifesto a paru aux éditions Sabine Vespieser.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.